en direct sur Europe 1 avec Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France. Bonjour Frédéric Valletoux.
Bonjour Mathieu Béliard.
Et maire de Fontainebleau, je le précise, en Seine-et-Marne. Merci d'être en direct avec nous. Nous voulions, en cette période de fin de confinement, poser la question de l'hôpital. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'hôpital, on a salué l'hôpital. L'hôpital en tension, la mobilisation des soignants, bien sûr. Les applaudissements des Français aussi à 20h sur leur balcon. Concrètement, comment on transforme l'essai après cette crise du coronavirus? C'est la question ce matin. Mais d'abord, Frédéric Valletoux, on parle de déconfinement, on parle de lundi, le 11 mai, la reprise du travail, de l'école pour certains. L'hôpital reste en tension au moment où on se parle.
À l'hôpital, dans certains départements, dans certaines régions, et notamment Grand Est, Île-de-France, reste en extrême tension parce qu'on est toujours à des niveaux de prise en charge qui sont élevés et qu'effectivement, il ne faut pas que la période de déconfinement que les Français oublient les hospitaliers et oublient que dans bien des endroits, dans bien des territoires, on est encore sur des niveaux de prise en charge hors normes, bien au-delà, j'allais dire, de ce qu'est le niveau moyen dans la vie avant l'épidémie. Donc cette attention, ce soutien des Français, il ne faut pas qu'ils baissent la garde et il n'y aurait rien de pire que finalement on ait l'impression, que les Français aient l'impression, eh bien qu'à partir du moment où on déconfine, ça veut dire que sur le front hospitalier, tout va mieux. Non, les équipes sont épuisées, le niveau de prise en charge, il reste élevé. Et y a une grosse inquiétude chez les équipes, effectivement hospitalières, dans les équipes hospitalières, d'une éventuelle deuxième vague, c'est-à-dire d'un retour de patients en nombre élevé dans les services Covid.
Alors deuxième vague aujourd'hui, Frédéric Valletoux, ça veut dire deux choses. Ça veut dire un retour du Covid et donc un retour à la situation extrêmement tendue qu'on a connue fin mars, début avril. Ou alors cette deuxième vague de patients qui n'ont pas soigné d'autres pathologies et qui vont d'un seul coup arriver après deux mois de confinement.
Mais de toute façon, vous avez raison, on sait que l'activité, elle va pas baisser dans les hôpitaux puisque les malades Covid vont être remplacés par tous ceux à qui dont on a reporté l'opération, dont on a reporté une intervention qui ont pu, parce que ça n'était pas un soin urgent, attendre et que cela va arriver vers l'hôpital. Et si s'ajoute en plus effectivement dans quelques semaines, parce que ce serait les premiers effets d'un déconfinement, à nouveau une file de patients Covid importants. Là, j'allais dire, on va ajouter des tensions aux tensions sur un hôpital qui, depuis des semaines et des semaines, je le dis, est très mobilisé, dans lequel on a totalement bousculé les plannings. Les personnels sont, ont dans les pattes des semaines et des semaines de forte mobilisation de prise en charge de patients Covid. Et donc, évidemment, c'est un sujet d'inquiétude et en tout cas d'attention et de vigilance très important.
Une activité hospitalière qui est toujours importante, la crainte d'une deuxième vague aujourd'hui et des services, faut le dire, parce qu'ils sont mobilisés, ils sont là, ils font le job comme on dit, mais ils sont crevés.
Ils sont crevés, effectivement, ils sont crevés et il est temps pour eux que les organisations se détendent un peu, ils puissent récupérer de ces semaines, ils puissent peut-être pour certains prendre quelques jours aussi de congé, mais ça ne peut se faire que si l'activité ne repart pas à la hausse. Et puis il faut savoir aussi une chose, c'est que toute la mobilisation qui a été celle autour de l'hôpital pour faire face à cette première vague où on a vu des transferts de patients en province, où on a vu des professionnels de santé venir d'autres régions prêter main forte à ceux qui étaient au front dans les régions les plus touchées, ce soutien, il a tendance aussi à diminuer. Les professionnels de santé sont souvent repartis dans leur région d'origine pour ceux qui étaient venus aider, donc il ne faut pas qu'il y ait de relâchement vis-à-vis de l'hôpital. Et moi, je demande au gouvernement, cette fois-ci, peut-être de mieux anticiper, de mieux préparer. On sait que dans les EHPAD, on a manqué et on continue souvent à manquer de personnel d'accompagnement parce que on a mis en quarantaine des personnels touchés par le Covid. Il y a dans certains établissements, dans certains EHPAD, c'est un tiers, 40% du personnel qui a été mis en retrait parce que lui-même touché par cette maladie. Tout cela, il faut en tenir compte dans la préparation des semaines qui viennent.
Alors, nous avons plusieurs réactions, mais d'abord, puisque je vais vous lire le message de Jean, d'abord cette prime défiscalisée annoncée hier à tous les soignants, 1500 euros pour les 33 départements les plus touchés, 1000 euros pour les autres. Cela concerne les EHPAD aussi. Comment est accueillie cette prime ?
C'est un signal positif, c'est une marque de reconnaissance. Le président Emmanuel Macron l'avait évoqué comme effectivement un signe de reconnaissance de la nation. Je pense que c'est pris comme tel et c'est bienvenu. Néanmoins, on sait que la crise, elle est arrivée sur un hôpital qui était déjà malade, qui était traversé de tensions profondes financières, crise de recrutement et difficultés souvent à recruter sur certains métiers, et que les questions de fond, évidemment, ne vont pas être réglées simplement par cette prime. Donc cette prime, c'est un geste. C'est un geste de reconnaissance, mais il y a un après, il y a un grand rendez-vous après qui doit être nécessaire, où on doit définitivement, et parce que les Français l'attendent aussi, conforter la place et le rôle de l'hôpital. C'est ça, ça sera ça la vraie marque de reconnaissance qu'attendent les hospitaliers.
Alors, la réalité de ce débat, si je puis être dans le détail et raconter un peu la coulisse à nos auditeurs, c'est que on a parlé de ce sujet très tôt ce matin et Jean nous a appelé. Mais Jean ne peut pas être en direct avec nous parce qu'il travaille, il travaille à l'hôpital. Ok, nous dit-il, n'oubliez pas, on n'a pas besoin de charité pour exercer notre engagement. On lave la conscience des gouvernants à coup de primes. On veut une vraie considération de nos valeurs et métiers. On va dans le mur avec cette politique de carottes et de fouets. Voilà ce que dit Jean.
C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire si on se contente et si le gouvernement se contente de cette prime en disant finalement voilà on a payé notre dette aux hospitaliers à travers cette prime, effectivement les tensions sociales qui traversaient nos établissements vont repartir de plus belle, parce qu'à juste titre ils ont l'impression qu'une fois de plus on renvoie au calendrier grec des réformes de fond. Ça fait 15 ans qu'on esquive une grande réforme de la santé. Ça fait 15 ans qu'on voit le système se déliter. Ça fait 15 ans qu'on voit les déserts médicaux progresser, qu'on voit la difficulté qu'ont les Français à se soigner, mais qu'on perçoit aussi l'attachement des Français à maintenir ce système de santé. Et la politique de l'esquive, c'est fini. Donc je pense que la période, elle appelle du volontarisme, elle appelle de l'audace, et elle appelle surtout à ce que cette fois-ci, parce qu'il y a eu cette crise qui a fait prendre conscience à tout le monde que c'était une urgence, on pose les vraies questions et on met les vraies questions sur la table et on y réponde. En tout cas, c'est le sens, nous, de notre interpellation au gouvernement. Ne loupez pas ce rendez-vous, parce que le vrai rendez-vous de la reconnaissance de la nation aux soignants, c'est ce rendez-vous des réformes à venir. La prime, c'est bien, mais j'allais dire, c'est l'apéritif. Maintenant, il faut un grand rendez-vous, ce New Deal que l'on appelle pour le système de santé et pour l'hôpital.
Et précisément, la question aujourd'hui aurait pu être, est-ce qu'il y aura un avant et un après Covid pour l'hôpital? Accueillons Selva, qui est en Seine-Saint-Denis, aide-soignant en Seine-Saint-Denis, à Stein, je crois. Bonjour Selva.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur Europe 1, vous êtes en direct dans la radio ouverte avec Frédéric Valtoux de la Fédération Hospitalière de France.
Bonjour Monsieur Valtoux et bonjour à tous les auditeurs.
Allez-y, Selva.
Bah écoutez, moi je suis vraiment déçu par cette prime parce que forcément il y aura du personnel non paramédicaux qui seront touchés parce qu'ils n'auront pas cette prime. Hein. On oublie les agents hospitaliers, on oublie les dames de service qui font le ménage. Voilà. Et puis qu'est-ce que ça veut dire 1500 euros? Vous voyez, toute l'année le personnel paramédicaux galère. On n'a jamais les moyens, on n'a jamais les budgets, c'est super compliqué. Ce qu'on vit actuellement, c'est hors du commun. Hors du commun, je reçois des SMS de beaucoup de camarades dans les hôpitaux qui se plaignent de manque du matériel, de manque de moyens, les gens qui craquent. Est-ce qu'on va penser à faire quelque chose pour le personnel hospitalier après le Covid? Ça va être très compliqué. Le personnel est à bout.
Vous ne croyez pas, Selva, vous, à cet effet d'entraînement avec l'hôpital, de la nécessité d'un hôpital qui fonctionne, les Français qui applaudissent aussi au balcon, je le rappelle à chaque fois à 20h, là vous êtes poussé, vous êtes soutenu.
Alors, Monsieur Bellard, permettez-moi, pour les citoyens qui nous applaudissent, moi j'y crois qu'à 50%. Moi j'ai envie de dire à tous les citoyens, il faut nous soutenir quand nous sommes dans les manifestations. Moi quand je vois tout ça, bon, à 50%, ça me fait chaud au cœur. Mais quelque part, je me dis combien de fois on va sur Paris faire des manifs, demander des moyens, du personnel. Et qu'est-ce qu'on a en réponse? Du gaz lacrymogène, du gaz lacrymogène.
Oui, c'est pas les Français qui sont sur le balcon, les gaz lacrymogènes.
Non,
mais je vois ce que vous voulez dire, Selva. Il y a un peu de scepticisme dans vos propos, on peut le comprendre. Frédéric Valtoux, il y a un côté chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Ils ont l'impression, peut-être certains, qu'il y a beaucoup de promesses et que derrière, ça suivra pas.
Mais à juste titre, enfin, je le redis, la crise est arrivée sur fond de grogne sociale et de tensions très fortes. Juste un chiffre, il y a 30% des emplois à l'hôpital qui sont des emplois pas pourvus. Et c'est surtout dans certains métiers, aussi bien d'ailleurs des postes médicaux de médecins que des postes paramédicaux. On a aujourd'hui des carrières qui sont peu attractives. On a un problème de niveau de salaire dans les hôpitaux. Alors bien sûr qu'on ne réglera pas tout d'un coup de baguette magique, mais à force d'avoir vu effectivement ces grands chantiers de réforme, mis de côté ou pas pris de la bonne manière depuis tant d'années, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un scepticisme. On a mis l'hôpital à la diète pendant des années, dans des logiques qui finalement l'ont asséché et asphyxié financièrement, chaque année un peu plus. Voilà. Bon, et aujourd'hui, il faut absolument changer de paradigme. Soit le système de santé, tel qu'il a toujours fonctionné, universel, service public, faisant cohabiter différents statuts, mais dont le service public était l'ossature, est essentiel. Et alors à ce moment-là, il faut que la France se donne les moyens de pouvoir le financer. On consacre déjà 12% de notre PIB à la santé, c'est largement suffisant. Mais dedans, il y a des inégalités de traitement qui font peser sur le secteur public un certain nombre de difficultés. Donc soit on s'attaque au vrai sujet, quitte à remettre en cause certains avantages acquis dans ce système, soit effectivement on continue la politique de l'esquive. Mais derrière, l'attente est telle et les besoins sont tels que effectivement, c'est pas une grogne sociale qu'on va avoir, c'est une révolte. Et un système qui va s'arrêter à un moment où les valises vont être posées en disant nous on peut plus. Là il y a eu la crise, je pense que les hospitaliers ont été au rendez-vous, personne ne peut nier. Donc il faut maintenant être à la hauteur de leur mobilisation et de cette mobilisation totalement exemplaire qui a été la leur en finançant et en étant à la hauteur des attentes pour l'hôpital.
Jean-Claude nous a appelé, il nous dit pour moi ce n'est pas un manque de moyens mais d'organisation. À travers la question de Jean-Claude, il y a aussi la question de la centralisation sur l'hôpital de notre système de santé.
Mais il y a des grands sujets sur lesquels il faut effectivement regarder de près. Un système qui est beaucoup trop bureaucratique et qui fait peser, mais ce que je vais dire pour l'hôpital, le médecin généraliste dans son cabinet le vit aussi. Trop forte bureaucratisation du système, la paperasserie à l'infini auquel il faut faire face, et ça les gens en ont ras-le-bol. Faire confiance aux acteurs locaux, faire confiance aux gens de terrain. On a vu pendant la crise l'hôpital a tenu, pourquoi? Parce que il a su s'adapter dans des territoires où la pression était différente, des moyens ont été trouvés, la bonne volonté a été trouvée, des organisations sont mises en place qui n'étaient pas les mêmes à Mulhouse qu'à Reims, qu'à Fontainebleau et qu'ailleurs. Voilà, donc, mais ils ont su faire face. Donc faisons leur confiance aux gens de terrain, les médecins de terrain, les personnels de terrain, tous ces gens-là, faisons leur confiance. Deuxième sujet, effectivement, la question du financement. Le président Macron, il y a 18 mois, disait qu'il y a 30% de dépenses qui sont des dépenses inutiles dans notre système de santé, qu'on peut, en les régulant mieux, pour pouvoir mieux investir sur les salaires à l'hôpital, sur la consultation du généraliste à 25 euros qui est trop bas, sur l'investissement hospitalier qui s'est cassé les figures ces dernières années. Donc, il n'y a même pas besoin, à la rigueur, de mettre plus d'argent dans le système. Il y a plus de 220 milliards déjà qui sont consacrés à la santé. Il faut mieux dépenser. Mais pour mieux dépenser, effectivement, il faut s'attaquer à certaines rentes. Il faut s'attaquer à redistribuer différemment. Donc, il y en a qui ne vont pas être contents de voir un peu moins d'argent arriver vers eux. Mais en tout cas, on pourra redonner de l'oxygène là où on en a besoin. Et c'est ça qui est important. C'est de mieux réguler. Ce n'est pas tellement d'appeler à toujours plus d'argent. Mmh. C'est d'avoir le courage, l'audace et la volonté de mieux dépenser dans un système où il y a déjà, suffisamment. Et ça, c'est un enjeu de courage politique.
Merci Frédéric Valtou. Je vais vous citer pour terminer cette séquence sur Europe 1 ce matin. Hier dans Ouest France, il est vital de réussir le déconfinement pour pouvoir refonder l'hôpital demain. Voilà le programme finalement pour les semaines et les mois à venir. Frédéric Valtou, président de la Fédération Hospitalière de France, merci beaucoup d'avoir répondu à nos auditeurs, à nos questions ce matin en direct sur Europe 1, la radio ouverte, 8h44.